Bonjour à tous. Voici la revue de presse des hebdomadaires et des mensuels chrétiens. Je suis en compagnie de Aurégane. Bonjour Aurégane.
Bonjour.
Qui va nous parler d'un article dans Panorama. Et Simon. Bonjour Simon.
Bonjour.
Qui va nous parler alors là de famille chrétienne, des centeniers, de la vie d'un artisan qui travaille le bois et la croix sur les vaccins. Aurégane, je vais laisser la parole.
À la fois lumière, matière, perception, sensation, catégorie, vocable, la couleur est indéfinissable. Vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui, je vais vous parler de Michel Pastoureau. La revue Panorama de décembre a accordé une interview à cet historien médiéviste, spécialiste de la couleur et passionné par les animaux, réalisée par Anne Curiran. Michel Pastoureau, né en 1947 à Paris. Dès petit, il se passionne pour les animaux et la couleur. Il avoue être entouré d'artistes peintres dans sa famille. Son père est un proche ami d'André Breton, écrivain et critique d'art, qu'il considère comme son premier professeur de couleur. Michel Pastoureau confie qu'André Breton avait un goût prononcé pour la couleur verte qu'il lui a sûrement transmis, puisqu'aujourd'hui, c'est sa couleur préférée. Lorsqu'il a une douzaine d'années, il découvre l'héraldique. En 1968, Michel Pastoureau, poussé par sa passion de l'histoire et du latin, intègre l'école de Chartres, qui forme les conservateurs. Il soutient sa thèse sur la thématique suivante, le bestiaire héraldique au Moyen-Âge. Cela permet de définir ses prochains terrains de recherche, les couleurs et les animaux. Pour les couleurs, il publie un premier roman à succès sur le bleu en 2000. Il y raconte l'histoire de cette couleur dans l'Occident au travers des âges. Aujourd'hui, cette couleur est considérée comme neutre. Dans l'interview pour Panorama, il estime que partout en Europe, depuis les premières enquêtes d'opinion à la fin du 19e siècle, la couleur préférée est le bleu. Il continue la série avec le noir, le vert, le rouge et le jaune. Il rédige en ce moment le dernier opus de la série sur le blanc. Michel Pastoureau affirme qu'il n'y a pas besoin de voir la couleur pour la penser. Nommer les innombrables nuances de couleurs est pour lui une passion. Les nuanciers de couleurs sont, selon l'heure, l'éclairage, la personne qui regarde, sont perçus différemment, dit-il. Comme l'auteur Daniel Tamé, Michel Pastoureau associe certaines couleurs à certains mots. Il confie à Panorama que l'année 2021 sera grise. Il explique « Elle ne va pas être complètement noire, mais pas très gaie. Je pense que même sans le virus, la couleur de nos sociétés contemporaines est le gris. » Il souhaiterait aujourd'hui se lancer dans un projet de construction de la place de la couleur dans la peinture européenne, car c'est un sujet dont personne ne parle actuellement. Michel Pastoureau travaille également sur les animaux. Il a publié plusieurs ouvrages sur le loup, l'ours, le cochon ou plus récemment sur le taureau. En 2021, il prévoit un livre sur le corbeau. Le corbeau est le plus fascinant de tous les animaux, la vedette du bestiaire symbolique européen. L'animal qui connaît le mieux l'être humain, l'animal le plus intelligent, affirme-t-il pour Panorama. Vous pouvez retrouver le dernier roman de Michel Pastoureau, Le Taureau, une histoire culturelle, aux éditions du Seuil pour 19,90€.
Merci, je vais passer la parole à Simon. Il va nous parler des centeniers dans Famille Chrétienne.
Oui, des centeniers et évidemment du coronavirus. Voici un sujet, une fois de plus donc lié à la pandémie et qui n'avait pas encore été traité. Et oui, et pourtant on pensait bien avoir tout dit sur la pandémie. Il s'agit des centeniers. Famille Chrétienne s'en charge en recueillant le témoignage de la famille Beaumont-Vouriot, centenier depuis 1946. Centenier, une activité mise à mal après l'annulation des marchés et foires de Noël. Principalement familiales, les petites entreprises qui fabriquent les centons font, on s'en doutait, 80% de leur chiffre d'affaires avant Noël. Le centenier Didier Coulon à Aubagne voit en outre le petit musée qu'il a créé à côté de ses ateliers désespérément vide, 150 cars annulés depuis mars et 30% de recettes en moins. Si les ventes par correspondance permettent d'éviter la banqueroute, l'envoi de 20 à 30 colis par jour demande une grosse logistique. On vend moins et on travaille plus, résume Didier Coulon. Comment comprendre que les gens puissent aller acheter des centons en plastique en jardinerie, mais ne puissent se rendre sur des marchés de Noël en plein air? Se lamente Philippe Rich, qui dirige l'entreprise Santon Flore à Aubagne. À cette question, pour l'heure, aucune réponse n'est donnée. Ce reportage est paru dans le numéro du 4 décembre. C'est un peu ancien, vous allez me dire, de Famille Chrétienne, mais on peut dire sans se tromper que la situation n'a pas bougé d'un poil. On reste dans l'artisanat avec un beau portrait paru sur le site de l'hebdomadaire La Vie, un portrait du seul et unique fabricant de bois d'icône en France. Ce dernier des Mohicans, Paul Van Niversiel, est belge et habite depuis une trentaine d'années à Villardonnelle, petit village audois de la Montagne Noire. Et c'est un bonheur de lire ces lignes signées Axel Puig, bonheur de se plonger dans le quotidien d'un artisan conscient du sens profond de son travail, d'un artisan qui parle du bois qu'il utilise avec une forme de ferveur. En effet, Paul Van Niversiel a appartenu à la communauté de la théophanie dissoute au début des années 90. C'est là que j'ai découvert le rite byzantin. Pour un chrétien, écrire une icône, c'est prier. L'icône représente les scènes de la vie du Christ, c'est un enseignement, une catéchèse, avec elle le Verbe se fait chair, explique l'artisan converti à l'orthodoxie. Allez, un petit tour pour terminer du côté du quotidien La Croix, qui signe pas moins de 3 papiers sur le vaccin contre le Covid dans son édition du 15 décembre. C'est d'autant plus intéressant que ces 3 articles se répondent et nous permettent sinon de nous faire une opinion, du moins de cerner un peu mieux l'épineuse question du vaccin. Le premier est une enquête sur la nébuleuse des militants anti-vaccins, les anti-vax, voilà comment il faut dire. Ce papier qui dénonce sans nuance les thèses complotistes, il est vrai parfois un peu parfelu, des nombreux youtubeurs qui font leur beurre de l'angoisse provoquée par la pandémie. Par exemple, l'association du vaccin, une puce électronique qui permettrait de contrôler la population. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Ces thèses anti-vax, disais-je, s'appuient sur une méfiance grandissante de la population envers les scientifiques et la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Alors, en regard de cette enquête, un autre article pose la question « Les vaccins contre le Covid sont-ils sûrs ?» Car on a beau dénoncer les complotistes, il est vrai que ce vaccin qui utilise une biotechnologie novatrice, l'ARN messager, a été conçu en un temps record et que des incertitudes demeurent quant à la durée de l'immunité, entre autres. Cependant, conclut l'infectiologue Jean-Daniel Lelièvre, pour les personnes à risque, le vaccin est une vraie chance, mais c'est un choix qui relève de la responsabilité individuelle. La responsabilité individuelle est plus précisément le consentement éclairé. C'est toujours dans La Croix du 15 décembre le sujet du cahier scientifique et éthique. Décider de sa santé en étant clairement informé, voilà en théorie, depuis la loi du 4 mars 2002, ce que chaque patient peut attendre du corps médical, mais on sait que sur le terrain, les choses sont plus compliquées que cela. Prévoir ce que l'on va dire ou ne pas dire, c'est marcher sur une ligne de crête, faire du cas par cas, explique Nicolas Fourreur, gériatre et responsable des consultations d'éthique clinique de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Un tour d'équilibriste que certains médecins ne se donnent parfois même pas la peine d'essayer. Le détail est à lire dans ce dossier préparé par Alice Ledréau. La journaliste nous permet également de faire le point sur les essais cliniques et leur éthique et de relayer au passage la parole d'Odile Reynaud-Lévy, gériatre, vice-présidente de l'Association nationale des médecins coordonnateurs du secteur médico-social, qui insiste sur le fait que personne dans les EHPAD ne sera vacciné d'office.
Merci Simon. Eh bien, je vais terminer, comme toujours, par la partie spirituelle. Dans Panorama de décembre, il y a toujours un numéro qui s'intitule « Écho de la Bible ». Et alors aujourd'hui, c'est Mgr Benoît de Sinti, qui est vicaire général du diocèse de Paris, qui nous parle de Rebecca. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Abraham que sa descendance serait nombreuse. Et sur le tard, il a eu un fils Isaac. Je rappelle qu'il en avait eu un autre, Ismaël, avec la servante. Et donc, il faut qu'Isaac se marie si on veut que la descendance soit nombreuse. Et il pense que le mieux, ce serait qu'il épouse une fille de sa terre. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, Abraham, il est parti de Ur, ou Ur, comme on veut, en Mésopotamie, pour arriver donc à Canaan. Alors, il envoie donc toute une caravane dans son ancien pays pour trouver une jeune fille. Et il a chargé un serviteur de la chose. Et arrivé aux portes de la ville, de Ur, donc, le serviteur, il se dit, mais comment est-ce que je vais choisir la femme de mon maître? Il décide finalement que ce sera celle qui donnera à boire. Et voilà qu'une charmante jeune fille remplit sa cruche et même le réservoir pour que les chameaux puissent boire. Et elle fonce chez son père en lui disant qu'un visiteur est arrivé. Alors, une jeune fille aussi charmante qui nourrit à la fois les hommes et les animaux. Donc, elle apparaît vraiment l'idéal. Le serviteur dit, bon, alors c'est elle, hop, on prend Rebecca et on la ramène, évidemment, chez Abraham et Isaac. Isaac, quand il la voit, elle doit être très belle, quand il la voit, il court vers elle et ils se marient. Ils auront des jumeaux, vous vous rappelez, Ésaü, l'aîné, qui aime bien les lentilles, et Jacob, celui qui est rusé, qui était devenu boiteux, si vous vous souvenez, après avoir combattu l'ange. Alors, bien des siècles plus tard, autour d'un autre fruit, un autre puits, la Samaritaine va donner aussi à boire à quelqu'un. Monseigneur de Sinti conclut en disant que c'est en remettant notre soif de vie entre les mains de celui qui a soif, celui avec un C majuscule, que nous le reconnaissons et que nous recevons de lui notre fécondité. Un autre article à lire, « Il était étranger et vous l'avez accueilli ». Alors, il s'agit d'un Afghan qui s'appelle Kodos, de 22 ans, qui est arrivé en France il y a un an et demi. Il a été accueilli à Marseille chez Frédéric et Marc Badin dans le cadre d'un programme qui s'appelle Welcome, un programme qui a été créé par les Jésuites. Vous pouvez acheter Panorama, si ça vous intéresse, à la procure. Dans Le Pèlerin du 17 au 24 décembre, un article à lire absolument. Un juif, un chrétien, un musulman se sont mis en tête de chanter ensemble en réponse à la haine des attentats de 2015 et à l'assassinat du père Hamel. Leur album s'appelle Liberté. Ce ne sont pas des chants religieux, hein. Farid dit qu'il a ce projet parce qu'il trouve que ça a du sens dans une période qui est marquée par le repli sur soi. Philippe, lui, il ajoute qu'on peut habiter le même pays, vivre ensemble, même si on ne croit pas la même chose. Et Mathieu complète en disant « Les discours de fraternité ne sont pas les plus fréquents. Notre premier titre s'appelle « Et Dieu dans tout ça ». C'est armé d'un message de non-violence. La fraternité n'est pas une évidence, elle se gagne, elle se travaille. » Voilà pour Le Pèlerin. Au revoir à tous, à dans 15 jours.